L'écho des rap, l'écho des rap, l'écho des rap, l'écho des rap.
Bonjour et bienvenue sur L'écho des rap, le podcast qui explore le rap de la scène à l'écoute. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ephrasis et Hello, rappeur grenoblois depuis plusieurs années et passionné de rap. Ils vont nous parler de leur manière de créer, mais surtout de leur vision de la scène rap à la fois locale et nationale. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus afin que on sache un peu qui vous êtes ?
Hello, L.O, rappeur de Grenoble et membre actif du Wolf Crew Records aussi. Je pense que je peux le dire, j'aime bien me présenter en double casquette dans ces cas-là. Voilà, qui est une association de rap qui organise des soirées et des open mic de rap à Grenoble.
Et Ephrasis, artiste rap grenoblois, passionné.
Trop bien, merci. Comment est-ce que vous décrirez le rap à quelqu'un qui n'en écoute pas du tout ?
Je dirais que c'est la musique de l'instantanéité. Il y a quelque chose de très immédiat dans le rap, dans la mesure où on lance nos émotions. Et que ce qui peut d'ailleurs gêner des gens qui n'écoutent pas de rap initialement, c'est que c'est très brut. Et ce côté brut, il est hyper agréable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas travaillé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas produit. Mais j'ai l'impression que dans le geste créatif du rap, il y a cette volonté d'être le plus sincère possible avec ses émotions, quelles qu'elles soient, ou avec la réalité. Donc je décrirais de cette manière-là. Je dirais que c'est une énergie, tu vois, c'est un mouvement à capter et que c'est la poésie de notre siècle.
Moi je dirais, tu parlais de brut. Moi c'est le côté authentique, je trouve que c'est une musique très authentique de par sa simplicité. Ça veut dire que là, si on tape sur la table pour faire un rythme, on peut rapper dessus, on n'a pas besoin, on peut même rapper dans le silence si on veut, on n'est pas obligé d'avoir des instruments ou quoi que ce soit, mais il y a un côté très authentique, très naturel et très simple au fait que ça vienne uniquement de la parole et que t'as pas besoin d'un organe vocal très poussé pour pouvoir en faire. Donc j'ai le côté authentique et je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la poésie de notre siècle. Moi j'écoutais une chronique sur une radio il y a pas très longtemps qui disait que si j'étais né dans les années 70, ma musique de contestation serait probablement été le rock, le rock'n'roll, et j'aurais fait des grands festivals de rock, et voilà, ça aurait été ça l'antisocial, la musique antisociale pardon, par excellence. Mais voilà, je suis né dans les années 90 et en fait la culture qui représente le plus ces convictions là c'est le hip hop, c'est le rap quoi.
Et comment est-ce que vous avez découvert le rap?
Moi j'ai eu la chance, parce que c'en est une, de grandir dans un milieu assez populaire, enfin genre dans un quartier populaire dans lequel nécessairement les cultures urbaines, parce que c'est une culture hip-hop au sens large, tu vois, il n'y a pas que le rap, gravitait déjà énormément. Et c'était l'accès vers la culture, tu vois. Et donc, rapidement, je m'en suis saisi, parce qu'il y a ce côté très authentique, très brut, très instantané, qui fait que, rapidement, on peut se dire, ça a l'air facile, ça a l'air faisable, ça ne demande pas grand-chose, en fait. En revanche, ça demande de le maîtriser ensuite, mais tu peux t'en saisir rapidement. Donc, c'est aussi ça qui m'a plu. Et ouais, je l'ai découvert très jeune. Enfin, on se faisait la réflexion avec Hello, justement, qu'on a été bousillé très tôt par le Peura, que ça nous a fait perdre sans doute un peu d'innocence et d'illusion, mais que ça nous a aussi apporté énormément de choses. Et c'est d'abord un parcours d'auditeur qui mène tous les rappeurs avant même qu'ils se découvrent. Et il y a un truc aussi à préciser, me semble-t-il, sur le rap, c'est que le rap, globalement, est conçu pour qu'on se l'approprie. Tu vois, un texte de rap, souvent, il dit « tu » ou il dit « je ». Et donc, le jeu que tu écoutes, c'est le jeu que ensuite tu vas interpréter toi. Je veux dire, il y a plein de textes de rap qu'on connaît par cœur, et on les interprète comme si ils venaient de nous. C'est ça qui est beau dans le rap, et c'est ça qui mène les auditeurs rap à créer eux-mêmes.
Le rap, moi je suis rentré dedans en tant qu'auditeur par la porte du rap américain, déjà, alors que c'est pas du tout une musique que j'écoute aujourd'hui, mais début des années 2000, y a du rap français hein, évidemment, mais on va dire celui qui arrive à mes oreilles, parce que je fais quand même partie du courant public quand j'ai 8 ans quoi, c'est vraiment le rap des États-Unis, et ça passe par l'entourage. J'ai un grand frère qui du coup écoutait plus de rap américain et du coup m'a fait découvrir ça, Et ensuite, je découvre le rap français. Et moi, c'est là que je me dis, c'est quand la barrière de la langue, elle tombe, quand le rap se met, arrive en français dans mes oreilles, je me dis, ok, moi aussi, j'ai envie d'essayer d'en faire. Donc voilà, pour moi, il y a deux portes d'entrée, il y a celle de l'auditeur et celle de l'artiste qui arrive après.
Ok, et du coup, ça représente quoi pour vous, le rap ?
Pour moi, le rap, ça représente le champ des possibles. Je crois que le rap nous a appris que c'était possible de prendre la parole, de dire, de performer et de réussir. Parce que, tu vois, c'est être entendu, mettre un pied dans les lieux de la culture légitime et dans la culture en soi. Et ce sont des modèles de réussite différents des autres qu'on avait. Et puis surtout, on en revient finalement à ça, à ce geste initial du rap qui vient de sa facilité, de sa fluidité. Mais c'est possible de rapper, il suffit de parler vite en fait, tu vois, si tu décortiques le truc. C'est ça que ça représente. Et puis, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est un mouvement, parce qu'on est toujours en mouvement dans le rap. Tu sais, rien n'est statique, c'est une musique qui évolue beaucoup. Et puis toi, quand tu crées et quand tu rappes, nécessairement tes gestes t'accompagnent, tes yeux aussi.
Pour moi, ça représente, il y a la notion de partage au centre de la musique en général, mais du rap, et la simplicité qu'on peut avoir à rapper, ce qui fait qu'en fait, ça rapproche les humains, quoi. C'est très vite, ça peut partir en freestyle parce que ça met une prod, parce qu'il y a quelqu'un qui a une guitare, etc. Et du coup, il y a une vraie notion de communauté, je trouve. Et ouais, du coup, il y a un sentiment d'appartenance à un mouvement. Et on peut faire partie de ce mouvement si on veut. On peut en faire pleinement partie. On peut le regarder de loin. On peut s'investir dedans un petit peu ou pas trop. C'est comme on veut.
Ok. Et du coup, comment est-ce que vous créez vos morceaux ?
Alors, moi, les morceaux, comme je mets le texte vraiment au centre de ma proposition, je sais que je suis tout le temps en train d'écrire. Dans mes notes de téléphone, voilà, je peux être au milieu d'une conversation, et c'est pas que je suis impoli, mais je vais prendre mon tel et je vais noter un truc parce que notre conversation m'a fait penser à une phase que j'aimerais bien mettre dans un son ou quoi. Et donc voilà, j'ai des notes de téléphone qui ressemblent vraiment à... Ça, c'est un grand foutoir. Et moi, je me mets des temps de travail, en fait, vraiment, où je me dis, ok, bon, là, ce soir, pendant 2 heures, je mets de l'ordre dans mes notes, parce que sinon, j'arrive rien à en tirer. Moi, j'ai pas trop, je suis pas trop dans ce cliché. Voilà, je me mets derrière une feuille et je couche sur le papier tout ce que j'ai à dire. Je suis quelqu'un de plutôt organisé. Enfin, je suis désorganisé dans mon écriture et du coup, j'ai besoin de remettre de l'ordre là-dedans. Et donc, souvent, moi, le texte arrive avant la musique. C'est de moins en moins le cas, mais si je devais tirer une grande tendance quand même de ma création, ça serait le cas. Après, je suis capable de peaufiner des textes pendant des mois, vraiment. Ça peut durer longtemps parce que je ne suis pas satisfait du schéma de rime. J'ai vraiment ce côté punchline, j'aime bien. C'est un truc qu'on a perdu un peu, je trouve, dans le rap. Et si je te fais un 16 mesures, qu'est-ce que tu as retenu à la fin ? Est-ce qu'il y a une phase un peu choc que tu as gardée à l'esprit ? Moi, c'est ce que j'essaye de créer chez l'auditeur. Donc, je vais me prendre la tête dessus. Et donc, je peux mettre du temps à sortir un produit fini.
Effectivement, moi aussi, ce qui m'importe le plus, c'est le texte. Par exemple, moi, quand je commence un projet, donc c'est-à-dire un regroupement de morceaux, tu vois, quand je commence un EP, je sais déjà comment il va s'appeler, dans le sens où c'est pas uniquement le nom de manière futile, c'est juste que le nom et donc le texte va donner une direction, une couleur à tout ce que je vais écrire et du coup à tout ce qui va être produit musicalement. Et c'est vrai que je suis pas fan des morceaux à thème, genre ah, là je parle de... la famille, là je parle d'engagement politique, etc. Moi ce que j'aime c'est quand l'engagement par exemple ou les émotions infusent dans un morceau qui n'a pas des allures de morceau à thème, tu vois, tous les thèmes se côtoient et convergent dans un sens. En revanche, c'est vrai que quand je commence un morceau, je sais où j'aimerais qu'il aille musicalement, c'est vrai, mais surtout sur le plan de la tension dramatique qui se développe et donc des paroles. Et c'est vrai que tu l'as décrit et c'est tellement savoureux pour nous, mais c'est un mode de vie de toujours avoir son téléphone en main parce qu'on va y noter des choses. Mais des fois, c'est juste des mots et des fois, je peux te dire que c'est éclaté.
On fait le jeu avec Efra, on fait le jeu des fois. Vas-y, sors ton téléphone, ta dernière phase dans tes notes là.
Frérot, viens, on le fait en direct. On est américain ou pas ? Ah ouais, et en fait, il faut dire que, et moi je trouve qu'on est un peu des sculpteurs, encore une fois c'est avec humilité que je dis ça, mais il y a un geste de sculpter, c'est-à-dire il y a une matière initiale, quelque chose qui est dans ton cœur, dans ta tête, quelque chose que tu as observé, une idée que tu avais, et tu vas la sculpter pour rendre cette phrase ou cette idée assez intéressante, assez intelligible, assez euphonique, tu vois, pour qu'elle sonne bien et qu'elle soit belle. Ça, c'est passionnant, et c'est des fois très compliqué.
J'ai viens de voir ma dernière rime qui date de hier soir. T'as pas envie, hein. Et c'est même pas une phase, en plus, des fois je mets que des rimes avec des slashes, tu vois. Et bah ben là, c'est ça. Je veux faire rimer Odegaard, qui est un joueur de foot d'Arsenal, avec Odegaard.
Ouh, c'est chaud. Ah là, j'ai la vision. Parce que Odegaard, c'est hyper poétique, hein. Je suis avec toi, frère. Bon, écoute, c'est fou comme on peut se mentir à soi-même. Je laisse de côté mes doutes et mes peurs irrationnelles. Alors tu disais comment est-ce qu'on conçoit une musique? Bah ouais, avec Hello je pense qu'on est à peu près les mêmes, on est de la même école. Tu sais, il y a plusieurs écoles dans le rap et il y a pas de mal à privilégier la mélodie, il y a pas de mal à privilégier plutôt l'émotion brute en soi. Nous c'est plutôt le texte. Et c'est vrai que moi il y a un truc que j'aime bien, c'est créer en studio. C'est-à-dire j'arrive et c'est un peu brouillon, tu sais, le matin je me dis putain mais qu'est-ce que je vais foutre dans cette session là, je suis pas prêt, j'ai rien. Et en fait bah on commence à créer, on se fait écouter des choses par exemple avec le compositeur. J'aime bien ça, j'ai été touché par ça. Rien qu'en parlant aussi, les mots qui ressortent, etc. Et pendant que le mec est en train de pianoter sur le clavier ou de triturer sa guitare pour trouver un truc, bah moi, je vais remettre de l'ordre dans mes notes et je vais me dire « Ah putain, ça peut être intéressant, etc. » Et c'est merveilleux de, à la fin de la journée, repartir avec un export que tu as fait toute la journée sans savoir ce que ça allait être. C'est formidable. Ça, pour le coup, c'est un acte de création collectif et c'est flamboyant. Rien qu'en en parlant, je me suis redressé sur ma chaise. T'sais. C'est, ouais, c'est incroyable.
Ok, et du coup, de quoi est-ce que vous vous inspirez pour créer ces morceaux? Vous m'avez un peu dit, mais...
Moi, c'est le quotidien qui transpire. Pendant longtemps, ça a été même quasiment que ça. Et avec, sans dire que je deviens vieux, mais avec le temps qui passe, avec l'âge, la nostalgie vient se teinter beaucoup plus aussi dans mes morceaux. Beaucoup de constats aussi, de plus en plus. Je suis beaucoup plus descriptif dans mes textes. Sans devenir un cliché, parce qu'on a vite fait quand même de dire ouais, y a la guerre dans le monde et c'est pas bien, et il y a des manières de le dire quand même.
Grave, mais je vais dans ton sens. Il n'y a pas de mal à dire que le rap c'est la puissance de la simplicité, et la simplicité c'est le quotidien, c'est ce qu'on a tous. Et c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment pas fan des morceaux à thème, parce que ce serait trop facile entre guillemets. En revanche, ce qui est intéressant c'est de résumer toute une semaine en un refrain par exemple. Tu sais, mais c'est la poésie du quotidien. Alors je vais citer un poète que j'aime beaucoup, un poète contemporain qui s'appelle Thomas Vinot, qui écrit de la poésie qui semble tellement bête, tellement plate, parce qu'il parle de regarder une fraise, de regarder sa sommité qui est verte, de regarder les petits grains qui se dessinent et le goût que ça provoque quand on la garde en bouche, etc. Par exemple, mais ça c'est hyper difficile à faire. De pas être grandiloquent, de pas parler de grandes émotions ou d'avoir de grands discours, mais plutôt de d'être le plus proche possible d'une réalité qui semble insignifiante mais qui pour autant a énormément de sens, notamment parce qu'elle est universelle. Et c'est ça moi qui me plaît, c'est d'arriver à toucher à l'universel en parlant de l'individuel, c'est passer du jeu au nous. Bon, ça c'est un peu cliché pour le coup, mais j'ai l'impression que c'est une intention qui est noble et qui est super difficile.
Ouais, c'est un vrai exercice de style de peindre le réel avec minimalisme presque.
Et d'autant qu'on est toujours rattrapé par des trucs qui nous font peur à toi et moi, c'est-à-dire d'être ridicule, tu sais, ridiculeusement concerné. Je sais pas comment dire, mais de trop se prendre au sérieux, il y a ça aussi. C'est que dès que t'es dans quelque chose qui est pas futile, dès qu'il y a un peu de sens et de fond, tu peux vite basculer dans quelque chose qui est très détestable, trop explicite, dégoulinant. Ouais. Et c'est super dur d'avoir cette élégance-là de sculpter.
Ok. Est-ce que vous avez des sorties ou des projets musicaux en ce moment ou bientôt, ou qui sont sortis il n'y a pas longtemps?
J'ai sorti mon dernier single qui s'appelle « J'esquive les miroirs », qui est un morceau du coup, qui parle de confiance en soi, du rapport qu'on a avec notre reflet et à notre image. C'est un morceau qui m'a beaucoup renvoyé à l'adolescence, ce moment où justement, pour la plupart des personnes, on esquive les miroirs, on n'aime pas trop ce que ça nous renvoie, ce qu'on voit dans nos yeux ou physiquement. Et voilà, j'ai voulu me replonger un peu là-dedans. Mais là, pour le coup, c'est, tu vois, parce que la prod s'y prêtait, par exemple. Tout à l'heure, je te disais que j'écrivais beaucoup les textes en amont, mais là, j'ai travaillé avec Wesma, un beatmaker de Grenoble, et j'ai un ami d'enfance qui m'a fait un super solo de guitare électrique à la fin du morceau qui vient teinter ce morceau rap de petite touche de rock qui est super. Et du coup, en fait, ça donnait un côté un peu dramatique au morceau, et du coup, c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai fait ce morceau. Donc voilà, j'esquive les miroirs disponibles. Et là, bon, je travaille sur la suite. J'étais sorti du processus créatif pendant un petit moment parce que en totale indépendance, il faut défendre tous les projets déjà existants. Personnellement, je participe à des tremplins, des concours, je fais la promo. Booking pour les concerts, machin. Moi, c'est quand ça prend beaucoup de place comme ça, j'ai du mal à créer. Je peux pas faire tout en même temps. Mais là, je suis retourné dans une boucle un peu créative où j'ai des maquettes de morceaux dans mon ordi et je pense que ça devrait voir le jour bientôt.
Et me concernant, à l'heure où je te parle, je bosse sur un EP qui va venir compléter celui qui est sorti en 2024, qui s'appelait Tout recommence. Et c'est un EP de 8 titres auquel je tiens énormément. Tu vois, d'ailleurs, l'espace entre la sortie dont je te parle et celle qui arrive témoigne du fait que j'ai vraiment pris mon temps, ce qui m'est peu arrivé finalement dans les années précédentes parce que le rap est une course, est un mouvement et qu'on est souvent tenté de vouloir remplir et tout, dans une démarche très capitaliste avec laquelle je suis en colère. Donc du coup, j'ai vraiment pris le temps de me réinterroger sur ce que je fais, de prendre du recul, etc. Et là, le projet qui va sortir, j'espère au mois de mai, c'est un aboutissement pour moi. C'est l'aboutissement de mes 10 ans de rap qu'on fête aujourd'hui, presque jour pour jour. voilà. Et puis, il y aura des singles avant, il y aura des clips. Et surtout, Hello et moi sommes attachés à une chose dans le rap, c'est les concerts et la performance. Et me concernant, normalement, il y a un gros concert à Grenoble qui arrivera au mois de mai, auquel je tiens beaucoup, avec mes amis sur scène, à la guitare et à la batterie, Ilyes et Flo. Donc, on prépare ça. Et moi, j'ai du mal à écouter mon morceau sans m'imaginer l'interpréter sur scène ou l'interpréter tout court, tu vois. Pour moi, les deux sont intrinsèquement liés et c'est ce qui va donner de la valeur à un morceau. Tu vas lui donner de l'envergure en l'interprétant sur scène et il va en prendre parce que tu peux l'imaginer en tant qu'auditeur en concert. Tu te dis, ah, celui-là en concert, ça va être fou. Ou alors celui-là, on va pleurer, enfin, tu vois.
Ok, trop bien. Et du coup, on va changer un peu de thématique. Comment est-ce que vous percevez l'engagement dans le rap actuel ?
Actuel, c'est le moment où on se fait des ennemis, là ? Ok. L'engagement dans le rap actuel, c'est pas aussi peu présent que ce qu'on pourrait croire, je pense, parce que le rap est pluriel, il y a des raps quand même aujourd'hui, et du coup tu peux vraiment écouter tout type de rap, tout type de rappeur et de rappeuse avec différentes valeurs. Et donc, est-ce qu'il y a un engagement ? Oui. Est-ce que c'est la grande tendance ? Non. Ça, c'est clair et net, effectivement, c'est quand même très... très capitaliste, encore très cliché. Mais ouais, si on veut se concentrer sur du rap engagé, il y a quand même des bonnes nouvelles, on va dire. Je pense à... T'as une certaine émission Netflix, quand même, qu'on pouvait voir d'un mauvais œil, qui est Nouvelle École, parce que, bon, c'est vraiment le divertissement du rap, mais qui a quand même fait gagner Youssef Swatz, par exemple. Donc ça fait beaucoup de bien au rap. On ne s'attendait pas forcément à ça de la part d'une production Netflix. Dans la même veine, 2L n'a pas gagné, mais c'est quand même une rappeuse très engagée et extrêmement écoutée et qui devrait aussi faire son chemin là-dedans. Donc il y a du rap engagé, il y a de l'engagement dans le rap toujours pour qui veut bien aller le chercher. C'est sûr qu'il faut pas, on va name drop, hein, mais il faut pas écouter Skyrock et Move, quoi, avec tout le respect que j'ai pour ces radios. C'est quand même pas là que tu vas trouver de l'engagement. Mais c'est à nous aussi, hein, en tant que rappeurs émergents, je pense, de le remettre au centre, cet engagement, parce que c'est nous les rappeurs de demain, c'est nous les artistes de demain. Et les faiseurs de rap, quoi, les faiseurs de ce mouvement, c'est nous. Et si, en fait, on décide de le remettre au centre, bah, ça va revenir au centre. Et j'ai un peu l'impression que ça transpire de plus en plus de par certaines écoutes, certains festivals. Le Grun Festival qui est très engagé aussi. Voilà, il y a quand même des gros noms qui se réveillent un petit peu sur l'engagement. Et je préfère voir le verre à moitié plein de ce côté-là.
Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, c'est trop bien. Et c'est très difficile quand on parle de ce sujet, qui est un vrai sujet qu'il faut aborder, très difficile de rester serein et lucide dans un tel débat, parce que moi, je t'avoue que instinctivement, je serais tenté de te dire « Oh là là, mais c'est pitoyable, en ce moment, il n'y a plus d'engagement, etc. » Et pour le coup, c'est pas vrai. En revanche, pour aller dans ton sens, je crois qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'artistes exposés qui s'engage. Parce que dans le rap grenoblois tel qu'on le connaît, partout hein, dans le rap à échelle locale ou départementale, il y a de l'engagement, il y a des artistes engagés. Mais en revanche, dès que des paliers sont passés, on a l'impression que cet engagement, il se dissout dans d'autres choses. Et c'est la question qu'il faut se poser, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que quand on connaît un grand succès ou même quand on connaît un succès moyen, mais quand il y a d'autres enjeux, pourquoi est-ce que c'est l'engagement qui empathie ? Vraie question, je crois que le rap est aussi reflet de son époque et je crois que c'est pas faux de dire que l'engagement ça coûte quelque chose musicalement déjà, tu passes vite pour un relou, tu vois, c'est très dur en vrai de sortir d'une phrase bateau quand tu veux dire quelque chose qui est important à dire et surtout il y a une vraie volonté de divertissement, il y a une vraie volonté d'évasion. Alors, c'est ce qui va permettre à certains, certaines de justifier des textes creux, mais en même temps, c'est tout à fait entendable. Je veux dire, d'ailleurs, quand on débat de ça, on rappelle aussi que le rap n'a jamais été fondamentalement contestataire. Ça n'est pas que ça. Ça n'est jamais qu'une musique de contestation. Et la joie, c'est une contestation. La joie pure et intrinsèque, c'est déjà une manière de résister. Je crois qu'il faut aussi revoir le mot engagement. Il ne s'agit pas d'être surexplicite et il n'y a pas que ça en fait, diffuser de la joie, faire en sorte que les uns et les autres se rassemblent, être acteur de la culture à sa manière et à son échelle, c'est déjà de l'engagement. Donc je crois qu'il ne faut pas faire un procès à des artistes, même si on n'est pas tous Médine en fait, et ça n'est pas grave encore une fois, chacun a son espace. Mais pour le coup, j'imagine que ça se sent dans ma manière d'en parler, c'est pas des questions réglées dans mon esprit. D'ailleurs, nous, en tant que rappeurs, c'est pas si clair hein, pour nous, cette question de l'engagement, tu vois. Après, il y a une disquette qui consiste à dire « mais tout est engagé ». Tu vois ce que je veux dire, genre la musique est un engagement et tout. Je sais pas, en fait. C'est que je me sens vite relou quand je fais un morceau entier engagé. Ce que j'aime bien, c'est quand, au détour d'une phrase, quand tu t'y attends pas, t'as une petite punchline, et puis j'ai l'impression que ce qu'il y a de plus beau, c'est quand c'est implicite, quand tu ressens l'énergie qu'incarne. En fait, c'est l'incarnation plutôt que dans les paroles. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'incarnation, ce que tu es, que ce que tu dis. Et juste, après, je vais finir cette longue intervention en citant une artiste pas rap, mais que j'aime beaucoup, qui est Zao de Sagazan, qui connaît un succès absolument tonitruant, qu'elle a mérité, je trouve qu'elle est absolument brillantissime, et qui s'engage, je veux dire, on l'a vu en manif, à quelques heures d'un concert à elle, plein de fois, elle reste elle-même et tout. Pour autant, dans ses textes, il y a l'évocation d'émotions et de choses très introspectives, mais pas tant finalement de discours sur la politique globale et tout. Et ça n'est pas grave parce qu'elle incarne quelque chose et tout le monde, il suffit d'écouter une ou deux chansons, tout le monde comprend ce qu'elle a dans le cœur et ce qui politiquement l'anime. Et ça suffit, en fait, c'est ok, c'est une manière de s'engager qui me semble même encore un peu plus fine.
Je veux rebondir sur ce que tu disais, parce que tu parlais de repenser un petit peu la notion d'engagement, etc. Parce qu'il y a une question de contexte aussi, je trouve. Tu peux pas forcément être engagé n'importe quand, avec n'importe qui. Il y a des rappeurs qui sont engagés dans certaines de leurs interventions, par exemple, mais qui, au quotidien, une fois qu'ils sont sur scène ou qu'ils sont en showcase, en fait, si tu es en showcase au Phoenix, tu vois, non, mais c'est pas forcément le moment pour avoir un discours qui va faire réfléchir les gens, parce qu'effectivement, ils sont là pour s'amuser, et peut-être qu'effectivement, l'amusement est une forme de résistance en soi. Et ouais, voilà, c'est ça. Des fois, peut-être qu'on en attend un peu trop des artistes qu'on sait être engagés. Voilà, il faut... on est dans un système, il faut jouer avec en fait. Je veux dire, par exemple, je pense qu'on connaît à peu près tous Big Flo et Oli dans leur engagement, de ce qui transpire de leur musique et de leurs valeurs. Pour autant, tu t'attends pas à ce que sur le plateau de The Voice, en prime time sur TF1, ils aient ce genre de discours.
Et du coup, si vous deviez donner une définition au rap engagé, ça serait quoi ?
Tu vois, moi, si j'ai défini rap engagé, c'est rap relou. Il est là le risque en fait. C'est que moi, j'aime le rap tout court. Alors je vais citer un artiste qui m'a beaucoup influencé et dont je me détache parce qu'il a eu des comportements qui sont pas les nôtres et qu'on valorise pas. Mais en vrai, Nekfeu, que j'ai beaucoup écouté, disait « J'aime le rap où tu mets rien après. Je n'ai pas besoin que ce soit du rap festif ou du rap engagé. Non, je veux du peura, tu vois, du rap tout court. Et dès que tu mets rap engagé, ah putain, je sens que ça va me saouler. Tu vois. Moi qui ai beaucoup écouté Kery James, moi qui ai beaucoup écouté Youssoupha, mais je veux pas du rap engagé, je veux du rap qui s'engage en me divertissant, par exemple. Mais si j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin sur la définition de rap engagé, c'est peut-être du rap qui dit des choses. Parce que pour le coup, moi, quelque chose qui me gêne quand même dans les raps qu'on a actuellement, bah c'est que souvent, il n'y a rien à se mettre sous la dent en termes de lyrics. Et pour autant, il y a des paroles. Alors moi, je déteste quand on fait un procès au rap en disant « Ah, mais vous avez entendu les paroles des rappeurs et tout ?» Franchement, je crois que c'est le style musical où il y a sur un morceau le plus grand nombre de mots. Tu vois, les couplets sont longs, il y a des tartines de textes et tout. Pour autant, ça ne veut pas dire que les textes sont tous bien. Et moi, je suis très gêné quand j'entends des morceaux, tu sais, qui marchent de ouf, mais qui ne racontent rien, qui le racontent mal, tu sais, où tu sens qu'il n'y a pas de plaisir dans l'écriture. Du coup, ça, moi, ça ne m'en donne pas du tout. Et encore une fois, ça ne donne pas envie à celles et ceux qui écoutent de s'intéresser au texte et tout. C'est ça qui va me gêner. Et encore une fois, valoriser, prioriser même les textes, c'est déjà de l'engagement.
Je dirais que le rap engagé, pour moi, c'est du rap qui prend des risques, en fait. C'est surtout ça. Et pas forcément en plus du rap qui veut forcément être dans une forme de bien-pensance ou de dénonciation. Je pense, dans un gros rappeur mainstream, on va dire, Vald est quelqu'un de très engagé, très très engagé dans ses textes en vrai. Et pour autant, il a des propos qui peuvent... qui sont clivants, qui peuvent être en double lecture. Mais du coup, pour moi, c'est un peu la définition du rap engagé, c'est ce que va dire Vald, en fait. Il n'a pas peur de dire « je suis ni à gauche, ni à droite, ni au centre, je suis autre part ». Enfin, non, mais tu vois, et de mettre des mots, alors une façon aussi un peu crue de le faire, du coup, ça rend la chose plus facile, parce que c'est j'abuse en plus, j'allais dire c'est pas très fin, mais des fois, ça l'est quand même. Mais voilà, en tout cas, c'est du rap qui fait débat, en fait, c'est ça, c'est que... Tu peux être d'accord avec ce qu'il dit, ne pas être d'accord, ne pas avoir d'avis, mais ça crée le débat. Parce qu'il y a une prise de risque dans ce qu'il va dire. Et il y a, voilà, des auditeurs vont me tourner le dos parce qu'ils pensaient que j'avais telle valeur, telle conviction, et en fait, non, pas du tout. Et en fait, voilà, il peut perdre des gens pour ça. Enfin, c'est une vraie prise de risque.
Et grave d'accord. Et du coup, juste pour terminer, ça m'a fait penser à un mot que je déteste quand on parle de musique, c'est lisse. Mais tu vois, quand on prend des risques, on n'est pas lisse. Ça veut dire qu'on prend le risque aussi de déplaire. Et c'est l'enjeu. Et bah, y a rien de pire qu'une musique lisse, polissée, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle ne heurte personne. Mais si elle ne heurte personne, elle ne touche personne aussi.
Ok, et quand on parle de dépolitisation du rap, ça vous évoque quoi?
Ça implique que le rap a été profondément politique. Du coup, cette dépolitisation, il y a une notion de vraiment... Enfin, à part Diams, quand même le Front National, t'en connais beaucoup. Enfin, oui, il y en a, je peux t'en citer plein, mais tu sais, à grosse échelle, tu vois, dépolitisation du rap, c'est marrant. Parce que j'aurais tendance à dire qu'il y a une politisation du rap plus qu'une dépolitisation. Bah, en fait, comme c'est devenu une musique très grand public et qui parle à tout le monde, t'es pas à l'abri qu'aux prochaines élections municipales, il y a un freestyle du maire pour plaire aux jeunes, quoi. Du coup, y a-t-il vraiment une dépolitisation du rap? Ouais, je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une. Est-elle réelle ou est-ce que c'est même l'inverse total? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ultra-politiser le rap? Ou les musiques urbaines, comme ils disent? Non, mais tu vois, avec l'arrivée des meufs comme Théodora sur la scène et tout, genre, ça vient replacer des débats hyper politiques. Est-ce qu'on est vraiment en train d'épouser? Moi, j'ai envie de te dire, je suis pas d'accord et c'est l'inverse total qui est en train de se passer.
C'est grave intéressant. En fait, c'est que le rap est devenu un fait politique, analysable en soi. Et enfin, dire dépolitiser, c'est déjà faire un procès au rap et pour le coup, on le défendra, je pense, toujours ou souvent. Donc non, en revanche, il y a peut-être eu une variation de ce que ça signifiait de dire que le rap était politique. Moi, ce qui m'embête, en revanche, j'ai envie de parler de dépossession du rap. Parce que c'est tellement... T'imagines un maire qui freestyle, frère, en 1995, quand la haine sort, Et il y a le maire, nique sa mère, le maire. Et là, 30 ans après, on se dit, il y a un maire qui peut péra. Bien sûr, moi, quand je serai maire, je rapperai. Mais c'est une dinguerie, frère, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Ça pose vraiment question parce que la porte d'accès pour beaucoup de gens au péra, c'est que c'est une musique populaire. C'est plus tout ce qu'elle charriait de code, de... Ça n'est plus ça. Et donc, c'est ça qui est politique. Tu vois, c'est sur ça qu'il faut s'interroger. T'as grave raison de citer l'exemple de Théodora. C'est politique. Tout ce qu'elle est politique.
Enfin, le débat que ça lance sous chacune de publications sur n'importe quel réseau social qui parle de Théodora, le clivage que ça crée chez les gens et les débats que ça crée, bon, les débats qui volent souvent pas très haut, mais enfin, t'imagines à quel point... ouais, c'est un sujet pour les gens.
Comment est-ce que vous percevez un rappeur ou une rappeuse engagée, bah engagée ou pas, comme vous le voyez, comme vous voulez, quand sa musique elle est produite par des boîtes de production qui suivent la logique du marché ?
Admettons que le système musical capitaliste actuel est un tank. Jeter des grenades sur un tank, ça servira à rien. Rentrer dans le tank, poser une grenade et en ressortir, ça peut faire des dégâts. On est dans un système qui a ses propres règles, à mon sens. C'est peut-être défaitiste comme vision, mais bon, c'est la mienne. Et donc, ouais, moi, j'en voudrais pas. Enfin, c'est pas grave, pour moi, ça ne... Il n'y a pas de forme d'illégitimité qui s'installe ou quoi que ce soit. En fait, il y a quand même des logiques de distribution. Tu peux faire la musique, la meilleure musique du monde, la musique la plus engagée du monde, tu peux être le futur Bob Marley de notre époque et de notre siècle. Bob Marley, s'il n'était pas distribué, voilà, pas de message. Donc non, pour moi, ça pose pas problème tant que tu restes les pieds sur terre, en fait, simplement, tant que t'es pas complètement hors sol et tant que tu te fais pas aspirer. C'est ça le risque, hein, de toute façon. Hein, et voilà, tant que tu te fais pas aspirer par la machine, en fait, et que t'arrives à tout le temps faire un pas de côté, ça me pose pas problème, c'est même presque intelligent.
Ouais, je suis grave d'accord. Et ça me faisait, je réfléchissais à mesure que tu parlais, je me disais, tu parles de logique de marché, qui est quelque chose de très problématique quand on fait de l'art, mais j'ai l'impression que les rappeurs locaux, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, se font avoir par cette logique de marché, et que ça, c'est un fait politique dont on ne parle pas assez, avec l'avènement des plateformes de streaming qui ont rendu plus libre la possibilité, enfin plus facile, tu vois, la possibilité de poster ses musiques. On est toutes et tous dans un rythme très capitaliste, très consumériste aussi, alors j'ai pas envie de m'inclure dedans, mais on a envie de sortir beaucoup de sons. Il faut occuper l'espace, il faut être présent, faire du contenu sans s'interroger sur ce qui est le contenant, tu vois, et sur la qualité du contenu. Ça, c'est un vrai problème, et je pense que c'est là qu'on s'est fait matrixer, et c'est sur ça qu'il faut réfléchir, discuter. Parce qu'en vrai, si tu ne fais que accepter la logique de marché et ce qui se fait, bah là, tu te fais aspirer et là, tu te dépolitises. Mais en revanche, si tu te places à côté, au-dessus ou enfin, voilà, sur le côté, bah là, déjà, tu as un engagement et tu changes un peu les choses. Après, bah, tu l'as dit, je veux dire, bah, moi, pour avoir bossé avec des boîtes, enfin, des gens qui m'entouraient, ça ne veut pas dire que tout l'engagement est foutu, tu vois, est perdu. C'est aussi une manière de faire en sorte que son soit écouté. C'est le jeu. Il faut jouer avec les règles.
Ok. Et en quoi le territoire sur lequel vous vivez influence votre manière de créer, de partager votre musique ?
Moi, ça m'influence beaucoup. Je suis même revenu ici, à Grenoble et en Isère, pour, pas que pour ça, évidemment, mais pour être dans un vivier artistique que j'avais perdu. Parce que j'étais à Grenoble, après j'ai bougé dans différentes villes de France, Annecy, Dijon, et il y avait moins cette effervescence de création, bon, qui est aussi liée au fait que j'ai mon entourage artistique qui est ici, mon engagement associatif, etc. Mais du coup, c'est forcément très inspirant parce qu'on est sur un territoire qui est fertile. Grenoble est un terreau fertile pour les manifestations culturelles de tout type. Et du coup, le rap en fait partie. Il y a quand même une grosse scène rap et un gros public rap à Grenoble qu'il n'y a pas forcément dans toutes les villes de France. Donc déjà, moi, ça m'inspire de par ce spectre-là. Et il y a aussi, du coup, en fait, tout ce qu'on voit, quand même une grande mixité aussi sociale et culturelle dans les rues de cette ville. Et du coup, l'ouverture sur l'autre et sur les autres cultures donne forcément matière à créer. Donc, c'est une part importante pour moi, en tout cas.
C'est pas anodin de poser cette question à Grenoble, et c'est important. Grenoble est une ville formidable qui a un héritage contestataire, révolutionnaire, de lutte, de défense de celles et ceux qui se réfugient ici. C'est aussi le berceau des politiques culturelles. C'est une ville antifasciste profondément, sociologiquement, qui est hyper intéressante, qui est tournée sur les mouvements de population, qui a toujours accueilli et qui est de manière microcosmique, qui représente toutes les problématiques, tous les sujets de société qu'on a en France et dans le monde. Donc d'en être, tu vois, de faire partie de cet écosystème-là, c'est exceptionnel. Et du coup, je trouve qu'en effet, le rap local grenoblois est à l'image de ce qu'est notre ville, pluriel évidemment, mais aussi engagé, coloré et solidaire, pour le coup, même si bah, y a des réseaux différents qui se regardent ou ne se regardent pas, mais pour le coup, il y a vraiment des collectifs qui se montent et il y a un esprit collectif comme celui-ci. C'est inspirant d'être à Grenoble. Et pour le coup, je pense que ma vie artistique aurait été différente si j'avais habité ailleurs. Et c'est poser la question de vivre dans notre belle capitale. Jamais de la vie, frérot, il n'y a pas. C'est pas la même vie. Là, ici, c'est la réalité. Il y a quelque chose de tellement, encore une fois, brut, de tellement authentique. C'est tellement inspirant. Et puis, comme nous, on se balade beaucoup dans notre ville, forcément, ça nous inspire. Tu sais, comme on a cette poésie du quotidien. La poésie, c'est pas nécessairement beau, hein. Et puis la beauté, c'est pas nécessairement positif, hein, tu vois, mais tout ce qu'on peut voir, toutes les scènes qu'on peut voir et qui infusent en nous, elles viennent de Grenoble. On devrait dédicacer Grenoble encore plus, on devrait copyrighter Grenoble pour tout ce qu'elle nous offre. Grenoble est évidemment toute cette métropole et ses montagnes.
Ok. Comment le succès auprès du public peut influencer la manière dont l'artiste crée ?
Le piège, ça va être de refaire ce qui a fonctionné. Tu peux évidemment refaire des choses qui t'inspirent parce que c'est dans ta direction artistique, etc. Mais ouais, ça peut influencer la manière de créer. Tout dépend de l'échelle, je pense. Je veux dire, nous, à nos échelles, on le fait. Si on le fait, je suis pas sûr que ce soit très problématique parce qu'on est justement en recherche de succès. Et si t'en as un, c'est normal que tu cherches le deuxième. Moi, j'ai du mal. Allez, ça name drop encore, de toute façon, je ne suis personne, mais Gims qui veut instaurer son Gims Beat, comme il le dit, et il nous donne à manger la même prod depuis 15 singles, moi je supporte pas, honnêtement. Et il a raison de le faire, sans doute, dans un sens, il a raison de le faire, le public est content, même moi je me prends 2-3 morceaux, ça passe en club, je suis content, voilà. Mais en fait, ça tue la création parce que du coup, c'est un modèle. Quand tu es aussi influent que ça dans la musique et que tu le dis clairement, en interview, tu dis à des gens, à tes journalistes, bah, moi, je veux imposer un type de rythmique, machin. C'est de pire en pire, quoi. Déjà, les morceaux sont de plus en plus courts parce qu'il faut qu'on repeat sur les plateformes de streaming. Si en plus maintenant les sons c'est les mêmes et qu'ils durent tous 2 minutes, et en plus c'est les mêmes rythmes et les mêmes top lines et les mêmes machins, et que c'est tout le temps les mêmes morceaux qui sont mis en avant par les mêmes circuits, les mêmes radios, les mêmes festivals, machin, bah forcément ça va tuer la créativité d'un certain côté.
C'est impossible qu'un artiste dise qu'il n'a pas envie de succès, qui n'a pas envie de réussite, et que quand il a une réussite, elle ne va pas l'influencer. Faut être honnête, hein. C'est aussi parce qu'on a envie d'être écouté, entendu, et que ça fonctionne, qu'on fait de la musique. Bon, une fois qu'on est en paix avec ça, déjà, c'est bien. Ça veut dire des fois que on va répéter le refrain en fin de morceau, parce que ça rendra le son plus efficace. Ça n'est pas un problème, c'est aussi dans le cœur de la création artistique, me semble-t-il. Alors on peut employer le mot de stratégie, et encore une fois, moi ça me semble pas mal du tout, c'est aussi de l'intelligence et de l'adaptation. En revanche, le problème, c'est quand ça influe sur le geste initial, tu vois, et sur le côté instantané de ce que tu as au fond de toi, et quand tu te prives de faire des choses que tu as au fond de toi. Et moi, ça m'est arrivé, je ne vais pas name drop pour le coup, parce que là, mais ça m'est arrivé d'avoir un rendez-vous avec un mec plutôt influent dans la région, qui écoute un de mes sons qui a bien marché, sur ma parole, et qui me dit « Ah, mais ça, tu me le refais 4 fois et on y est, on signe. » Bah oui, mais frérot, je vais pas trop faire ça, moi. Mais il me dit, et j'entends, le pire, c'est que j'entends la logique, ça fonctionne. La formule, elle fonctionne. Si je le fais plusieurs fois en adaptant, évidemment que normalement, mécaniquement, en fait, ça va trouver son public. Mais c'est pas excitant du tout. Et puis moi, il se trouve que je suis plus dans cette perspective. Mais si je suis honnête avec toi, et le rap nous fait fantasmer ça, mais quand tu te lances, entre guillemets, dans le peura, bah oui, t'as envie de succès, oui. Tu as envie de ça, et c'est pour ça qu'on écoute les artistes mainstream en se disant « Ah mais non, mais moi, je vendrai pas mon âme. » Tu te rappelles ce genre de phrase-là ? Tu vois, on est pris dans cette tension-là, et je crois qu'il faut la régler en assumant que, bah oui, on a envie de réussir, on a envie que ça marche, on a envie d'être écouté. Et en même temps, oui, on reste nous-mêmes, on y tient, etc. Mais c'est un vrai grand écart des fois, effectivement. Et c'est vrai que pour avoir bossé avec des gens qui avaient moins l'artistique en tête, ben c'est dur d'arriver à militer pour sa paroisse. Mais si tu as envie que ça fonctionne, ça veut dire que tu t'inscris dans un... Il y a la question du modèle économique, il y a plein de questions qui font que nécessairement tu vas faire des concessions en fait. Et dès que tu fais des concessions artistiques, c'est compliqué. Mais en vrai de vrai... C'est pour ça que c'est encore plus dur dans le rap, parce que le rap, nos personnages... Enfin, en fait, c'est pas des personnages, c'est ça le truc, c'est que Hello, pour le coup, tu devines son prénom avec son nom d'artiste. Pascal. Non, je rigole. Non, mais en vrai, tu devines son nom d'artiste. Moi, c'est un prolongement de moi-même. Ça m'a d'ailleurs posé plein de questions. Mais du coup, quand tu es, par exemple, un artiste pop, bah, tu crées un groupe, tu t'appelles Goyave Express, Chicago Bus, enfin, tu sais, tu crées un nom de scène, du coup, tu crées un ethos qui est différent, c'est différent de toi, c'est ton travail, etc. Nous, on n'a pas ça dans le peura, tu vois.
La limite, elle est trop fine.
Exactement. Moi, ça m'est arrivé que ça devienne mon travail, d'être dans un queutru, du coup, qui ne me ressemblait plus vraiment, et c'est très schizophrénique et très douloureux. Du coup, il faut se poser cette question, hein. La base, c'est... Est-ce que moi, ça m'est arrivé de parler avec des artistes pop qui, pour le coup, là, connaissent un vrai succès et ils sont conscients que, bah, artistiquement, ils savent faire de la musique, ils savent chanter et c'est tout. Ça veut dire que, bah, l'important, c'est pas les paroles qu'ils vont écrire, mais ça n'est pas si grave que ça. C'est juste que c'est deux directions différentes et ça dépend laquelle tu prends.
Et comment l'industrie du rap influence ce qu'on écoute et ce qui est produit aujourd'hui ?
Je vais revenir à Skyrock. Mais quand t'écoutes Laurent Bouneau, il regarde le top 10 des musiques les plus streamées de la semaine sur Spotify et il prend les titres rap et musique urbaine et il les fait rentrer en rotation. C'est lui qui le dit. Si c'est les streams qui décident de ce qu'on écoute, il y a plein de biais déjà problématiques, financiers. Acheter des streams, c'est très facile. Plein de rappeurs le font. Évidemment, on n'a pas de preuves, mais il n'y a qu'à voir les fausses des concerts. Et derrière, ça veut surtout dire que, encore une fois, toi, tu es rappeur et tu veux fonctionner, tu veux marcher. Et ben en fait, tu vas dire « Ok, il faut que je fasse comme le top 10 Spotify France en ce moment ». Et du coup, bah, on arrive dans un espèce de jeu où tu essaies de faire bah, voilà, quoi, du sous DC's, du sous Théodora, du sous Joule. Et c'est comme ça que l'industrie, je pense, influence grandement le monde du rap. Et il y a aussi une notion de on te fait miroiter des choses. Mais en plus à toutes les échelles, c'est-à-dire que même dans le rap là chez nous à Grenoble, t'as déjà un producteur véreux qui va te faire croire qu'il peut te faire monter au sommet. Enfin tu vois, ça peut commencer dans des échelles assez basses et très tôt dans ton développement artistique. Et du coup bah, si t'es jeune même pas forcément dans l'âge, mais en termes de maturité artistique quoi, si t'es arrivé dans le milieu depuis pas longtemps etc, tu peux avoir tendance à croire à ces mensonges, parce que c'est des mensonges vraiment purs et durs, quoi. Et, Et du coup, bah ouais, ça va influencer ta manière de faire de la musique et tout, parce qu'on te promet le succès et l'argent et la notoriété.
Moi, ça me fait de la peine quand, à l'échelle locale, on essaie de s'inspirer de ce qui marche et tout. Parce que du coup, ben, tu copies, quoi. Ça n'a pas de sens. Puis il n'y a pas que ce chemin-là pour le succès. C'est pour ça que c'est, me semble-t-il, très sain de se tenir informé de ce qui se fait sur la scène underground et aussi sur la scène locale, parce que c'est beaucoup moins formaté, c'est beaucoup moins lissé, justement. Et ouais, c'est... Tu vois, l'autre jour, j'écoutais Feu Chatterton, l'album, le dernier album là qui est sorti. Je sais pas si t'as écouté. Je trouve que c'est hyper bien, quoi. Alors moi, tout un album, c'est, je prends pas tant de plaisir, mais je veux dire, c'est, les morceaux, ils sont longs, les structures, elles sont complexes, elles sont singulières, il y a de la place pour la musique, et pour autant ça fonctionne. Ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé de faire des morceaux de 2 minutes avec des rythmiques de Gaulmont, tu vois, ça n'est pas obligé, mais on est souvent tenté de le croire, ou alors on nous le fait souvent croire, peut-être encore plus dans le Pura. Et en vrai, non. Tant que c'est qualitatif, qu'il y a vraiment quelque chose de... qui vient du cœur, mais ça peut fonctionner. Donc, se laisser influencer par l'industrie, c'est une très mauvaise idée, mais ça nous est toutes et tous arrivé, ou ça nous a toutes et tous traversé. Ça veut bien dire qu'il y a des enjeux, quoi, qu'il y a une tension.
Ouais, je tiens à préciser que là, en plus, je donnais ma réponse avec le spectre du rappeur. Mais en tant qu'auditeur, par contre, je suis complètement pris dans le truc de l'industrie. Hein. Je veux dire, j'écoute Jul, j'écoute Théodora Edicis, j'écoute Gazo. Alors, j'écoute pas que ça, parce que j'écoute de la musique quasiment tout le temps et que du coup, j'ai un spectre large. Mais là, ouais, on en parle en tant que rappeur et artiste qui crée des choses. Mais voilà, quand t'es du côté de l'auditoire, bah en fait, la facilité, elle a du bon, quoi. Et du coup, c'est j'ai même pas envie de blâmer les auditeurs, j'en fais partie, tu vois, genre il y a même pas de paresse ou quoi que ce soit, c'est juste que bah en fait ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, pourquoi aller chercher?
Non, et alors en vrai, c'est très rassurant d'écouter ce que les autres écoutent, parce que bah socialement t'as les mêmes refs, etc. Pour le coup, moi j'avoue que je parlerais volontiers de paresse, hein, parce que moi j'écoute plein de trucs hyper exposés. Mais je me force à diguer, je me force à aller chercher quand c'est plus complexe, à me tenir informé, tu sais, à voir, ah ouais, lui, il fait ça.
Parce qu'on est des bousiers de musique. Il y a des gens, ils consomment la musique comme ils consomment un plat de pâtes à midi, entre midi et deux, dans un tupperware froid, tu vois. Et voilà, et du coup, tu peux pas... Enfin, les gens, ils ont beaucoup moins d'affect avec la musique que nous. Et voilà, ce qu'ils veulent, c'est aller dans des gigasalles, aller dans des gigafestivals. Et en fait, ils font pas forcément la différence. Et du coup, c'est un côté mignon, des fois, en tant qu'artiste. Des fois, t'es là, t'es un petit artiste, t'as fait ta salle, il y a 100 personnes devant toi. Et les gens, ils viennent te voir, ils veulent prendre des photos à la fin, comme si t'étais une méga star et tout. Et c'est parce qu'en fait, il y a un côté un peu innocent de pas faire la différence sur la proposition qu'on leur fait, tu vois. C'est juste une sorte de feeling, en fait. Ça plaît à mes oreilles ou pas? Ça crée de l'endorphine dans mon corps, cette musique? Oui, ok, j'écoute, je reste, je consomme, tu vois. Et oui, c'est sans doute, de toute façon, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc, il y a forcément une petite notion de paresse, peut-être. Certaines personnes pourraient aller chercher un peu plus, mais...
Pour le coup, tu vois, c'est peut-être là qu'on peut retrouver de l'engagement chez l'auditeur ou l'auditrice. Moi, des fois, je suis choqué, frérot, de voir des gens, auditeurs, entre guillemets, lambda, qui ne sont pas partie prenante d'une asso, assister à des soirées peura catastrophiques, frérot, où ça fait béton le micro, première scène, ça te choque, machin... Et les gens sont là et sont heureux d'assister à des prestations qui sont spontanées, qui sont les premières, qui sont locales, en fait.
C'est eux les personnes engagées, en fait.
Mais grave, mes frères. Parce que quand tu regardes le modèle économique des salles et des équipements culturels chez nous et partout en France, c'est très compliqué. Et donc, ne pas aller voir Rihanna dans un stade, mais aller voir un concert de Peura d'un rappeur local à l'Ampérage à prix libre, ça, c'est un choix, mec. Tu vois, c'est une affirmation de... C'est la culture à échelle locale. C'est ça qu'on défend, tu vois. Ah, je suis en train de...
T'es en train de t'énerver, là.
Hyper... Ouais, je suis en train de... Non, mais c'est grave important pour moi, en fait. C'est de se rendre compte que c'est difficile ce que l'on fait. C'est difficile d'être sur scène. C'est difficile de produire de la musique ou une œuvre artistique, de la diffuser le plus possible, de la rendre accessible et qualitative. Et du coup, c'est trop facile d'aller voir ce qui fonctionne déjà. Ça ne veut pas dire que c'est blâmable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut. Enfin, j'invite aussi les uns et les autres.
Tu peux faire les deux. En fait.
Voilà, exactement. Tu sais, à tourner le regard à droite et à gauche, mais c'est la même chose sociétalement, enfin, dans la société. Je veux dire, bah oui, il y a des gens qui vont bien, mais il y a aussi des gens qui souffrent, et pourquoi ? Et faut pas les laisser de côté, tu vois. Faut au moins les regarder ou alors leur parler. En fait, il va rien se passer de gravissime. C'est la même chose dans la culture à échelle locale. Et elle est là, la vie, qui n'est pas marketée, qui n'est pas lissée, qui n'est pas industrielle.
Exact. Et bah du coup, vous avez un peu répondu, mais on va continuer sur la lancée. Vous direz que les auditeurs de rap, ils recherchent quoi dans les morceaux ?
Plutôt une forme de divertissement, quand même, hein, grandement. Il y a une vraie volonté de poser le cerveau et de s'amuser, et de chanter, et de crier, et de danser. Pour des raisons beaucoup plus profondes qui dépassent la musique. Un mal-être profond et latent dans notre existence et sur notre avenir, qui fait que bon, des fois t'as juste envie d'aller hurler des chansons, quoi. Tu peux le faire sur les lacs du Connemara ou tu peux le faire sur Gazo, tu vois. En fait, c'est et comme du coup la tendance est plutôt au rap ces dernières années, ça va plutôt être sur Gazo. Et c'est là que il y a quand même une, enfin c'est pas du tout binaire, c'est que ces mêmes personnes peuvent avoir quand même envie d'avoir une musique un peu plus substantielle de temps en temps, et qu'ils ont envie que tu ailles les toucher avec sur leurs cordes sensibles à eux. Et ouais, c'est forcément des profils complexes, mais si je devais donner une grande tendance, je pense que les gens recherchent plutôt le divertissement.
Du coup, je suis d'accord avec ta définition, je vais en donner une autre. Je dirais que ce qu'on recherche dans le Peura, c'est un cri du cœur, c'est l'émotion ou les émotions telles que la personne la perçoit. Et du coup, comme il y a ce truc où très vite tu t'appropries le texte et tu le rechantes comme si c'était le tien, ça te permet d'extérioriser de manière hyper puissante et hyper émouvante. Et ce que je recherche, c'est la virtuosité. C'est la manière de placer, bon, pas que avec les textes, mais tu sais, je t'ai envoyé l'autre jour un morceau pour le coup un peu grand public, Freeze Corleone et Ninho, enfin voilà, Dictionnaire, Ninho invité sur l'album de Freeze Corleone. Bon, Ninho, la prestation est vraiment oubliable, mais pour le coup, celle de Freeze, mais c'est pas possible d'être aussi fort, c'est ce que je t'ai écrit je crois dans le message, c'est pas possible de placer sa voix aussi bien, aussi intelligemment. En fait, je trouve qu'il y a énormément d'intelligence de compréhension de l'instrumental et de sa rythmique pour ne pas tomber comme on l'attend, mais juste à côté, juste un peu après, juste un peu avant, et arriver à faire rimer les mots, arriver à créer des schémas de rimes hyper audacieux, à ce que ça semble hyper facile en fait dans l'interprétation, jamais à bout de souffle, jamais la voix qui s'éraille et tout. Ça, je trouve que c'est trop beau, tu vois. Et il y a un truc qui est beau dans le rap, c'est qu'on peut faire du rap pour du rap, juste pas dire grand chose. Et il y a un rappeur que j'écoutais à l'ancienne qui s'appelle Lucio Bukowski, qui continue, hein, c'est un mec de Lyon, de l'animalerie et tout, qui disait « Je ne dis rien, mais je le dis bien ».
Quel rôle, selon vous, le rap peut-il jouer dans le débat politique et social ?
Bah, tu vois, c'est marrant, je pensais pas parler de Freeze Corleone deux fois dans l'interview, mais dans un morceau qui s'appelle Shafkat, qui était un des premiers extraits de son dernier album, bah il rappe, c'est un peu de l'ego trip, enfin c'est Freeze quoi. Mais en gros, il dit que Gérald Darmanin est accusé de viol. Bah c'est trop bien de le rappeler quand même. On a un ministre qui a été garde des Sceaux et qui est accusé de viol. C'est hyper important de le poser comme ça. Pour autant, son morceau s'appelle pas Darmanin le violeur et il parle pas de ça tout au long du couplet. Mais pour autant, encore une fois, c'est instiller une petite graine dans le débat public de cette manière-là, rappeler des choses. Et tu parlais de Grunt. Et là, ils ont lancé les concerts municipaux.
Non, c'est ça, ils font une tournée pour les élections municipales, ouais. Où en gros ils s'engagent contre le Rassemblement National.
On le dira jamais assez, mais Grunt, putain, merci pour les travaux, quoi. C'est de l'activisme politique avec le prisme de la musique, parce que c'est aussi de la musique de qualité qui est proposée. Et on est un peu gêné par cette question, me semble-t-il, parce qu'elle est très large, tu vois. Mais si on prend des exemples précis, en fait, le rap a voix au chapitre et c'est important de l'utiliser. Ça ne veut pas dire que toutes et tous doivent le faire et le font, mais en vrai, même nous, à notre échelle, tu vois, c'est juste se servir d'un micro, pas gaspiller de l'électricité pour rien, tu vois. Genre, on a un micro dans les mains, les gens, ils ont un temps d'écoute qu'ils nous accordent, un temps d'écoute très limité qu'ils nous accordent, donc pas dire n'importe quoi, ou alors si on dit n'importe quoi, bien le dire.
Ouais, mais du coup, le rap se place effectivement je pense, comme un des étendards antifascistes dans le débat public. Pour autant, est-ce qu'il pèse vraiment? Est-ce qu'il est vraiment important? Je sais pas. Et surtout, comme on sait, tu vois, on diabolise, le rap a tendance à diaboliser, avec raison, on est bien d'accord, hein, attention, hein, les discours d'extrême droite et tout, et où tu vois, des rappels comme sur Darmanin et tout, comme Freeze. Et pour autant, est-ce qu'en face, on va pas avoir des gens qui vont dire, ah, mais voilà, comme d'habitude, ils nous incriminent, ils nous emmerdent, et puis est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'on vit, machin, et qu'en fait, genre, ça les entérine dans leur valeur. Et voilà, ça me fait un peu peur. C'est la dérive, on va dire. Mais du coup, pour autant, est-ce qu'il faut arrêter? Non. Vraiment, la réponse est non. Il faudra tout le temps dénoncer dans tous les cas. Mais il faut avoir conscience quand même, je pense, de ce à quoi on participe quand on le fait.
Très bien. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du rap?
Moi, je ne sais pas. Hein, c'est compliqué. Parce que je voyais quand même le rap être sur une forme de déclin. Qui va faire du bien, quand même, je pense. Parce qu'il va être remplacé, je pense, par d'autres musiques. C'est déjà un peu le cas, hein, d'ailleurs. Les concerts de rap se sont vidés pour aller sur des esthétiques plus électro, plus techno. En tout cas, les, je sais pas, les jeunes étudiants, par exemple, il y a 10 ans, ils allaient vraiment en concert de rap. Aujourd'hui, ils vont plutôt en soirée techno. C'est en train de changer. Maintenant... ouais, si le rap est un peu moins mis en avant sur la grande scène, voilà, plus trop de victoires de la musique, des trucs comme ça, je pense que ça va faire du bien. Et peut-être qu'à terme, on se retrouvera, entre passionnés de rap, comme peut l'être la culture dub, par exemple, qui est une culture qui vit extrêmement bien. Mais pas avec un énorme auditoire. Et voilà, peut-être qu'on va revenir à une forme un peu plus simple de rap. C'est une des théories.
Bon, c'est dur, hein, on n'a pas de boule de cristal. Moi, j'ai l'impression que le rap tend à se dissoudre dans la pop, une partie en tout cas du rap, tu vois. C'est déjà le cas. Hein. Voilà, c'est comme ça que le rap a gagné des auditeurs aussi. Et que de l'autre côté, il y a une scène underground avec plein de manières de poser qui sont différentes. Critiquables aussi, hein, je vais pas te mentir, je vais pas faire le mec, tu sais, qui j'aime tout ce que font les petits jeunes là. Non, en vrai, il y a des manières de poser qui sont imbuvables. Pourquoi tu fais exprès de pas être dans les temps, frérot? Enfin voilà, tout n'est pas bien. Mais en revanche, il y a encore de la création, ce qui montre que on est encore capable, le rap est encore capable de perdurer, mais juste bah, peut-être un peu plus dans l'ombre. Et pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on se retrouverait pas que entre passionnés? Parce que en vrai. C'est tous les gens qui écoutent du rap ne sont pas passionnés de rap. Tous les gens qui font du rap ne sont pas passionnés de rap. Ça, c'est un problème. C'est fou, frère. Mais donc, je pense effectivement, ou je souhaite, que dans 10 ans, ben ouais, le rap soit moins exposé, que ce soit moins vu aussi comme le rêve de réussite, le rêve suprême, tu vois. Comme dit Ben PLG, c'est pas le BEP vente ou le foot, nouvelle école ou le four. Bah en vrai, je veux pas qu'il y ait que ces options-là et j'aimerais bien que Nouvelle École ce soit plus le truc de la réussite et qu'on arrête à nous de nous dire « Pourquoi tu fais pas Nouvelle École, frérot ?» Il y a tellement de raisons. Du coup, voilà, qu'on soit moins dans un truc industriel, encore une fois, et qu'on se retrouve entre passionnés. Ça peut être bien et c'est normal que ce mouvement qui est tellement puissant et tellement un mouvement de jeunes ait vécu un apogée, un moment exceptionnel comme celui des dernières années. Et ce sera pas un déclin, en fait, ce sera juste une autre évolution. Et j'ai tellement hâte, dans 20 ans, de sortir des morceaux avec 300 streams, mais tu sais, des vrais streams de gens qui kiffent vraiment, tu vois, et qu'on revienne à des trucs moins chantés, enfin, vraiment peu rares, tu vois.
Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, t'as raison, donc ça va se dissoudre un peu plus dans la pop, enfin, c'est déjà le cas. Et des nouvelles sonorités aussi, par contre, chata, reggaeton, quand même beaucoup. Et qu'on peut pas mettre dans la catégorie pop, je pense, si on veut vraiment en mettre des musiques dans des cases. Mais là, on arrive vraiment sur cette ère-là. Globalement, on est vraiment sur, je trouve, des mélodies quand même, enfin, du rap beaucoup plus dansant. D'ailleurs, à terme, va falloir, pareil, si on veut vraiment définir les choses, va falloir redéfinir le rap et ce qu'est le rap, parce que ouais, ça pose débat aussi. Enfin, si on veut le définir, si on a ce besoin-là, là, c'est le moment de le refaire, là. Là, c'est le moment de redéfinir les choses correctement parce que c'est devenu un peu chaotique.
On va revenir un peu à vous. Comment est-ce que vous définirez votre rap en 3-4 mots?
Alors, je dirais coloré, fédérateur, poétique et performance.
Moi, je dirais simple, véritable, nostalgique, impactant.
Merci. Est-ce que vous avez envie de parler, de rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ? Parce que ça va être la fin.
Je voulais dire un truc, parce qu'on a parlé, ça a transpiré le rap engagé pendant toute la durée de ce podcast. Et en vrai, je repensais tout à l'heure quand tu demandais c'était quoi le rap engagé. Alors il y a plein de formes de rap engagé du coup, mais en vrai, je dis pas ça parce que c'est mon pote et que je veux le saucer, mais Ephrasis fait du rap engagé. Avec la... Non mais avec, je pense, à mon sens, une des meilleures définitions du rap engagé qu'on puisse en faire, c'est-à-dire que c'est pas du rap chiant, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, que ça peut être vite moralisateur et tout machin. Et en fait, ouais, si vous cherchez à savoir c'est quoi du rap engagé, alors c'est pas que ça, hein, tu fais pas que du rap engagé, on est d'accord. Mais je trouve quand même que c'est une des meilleures définitions qu'on puisse en faire, c'est quand vraiment, ça transpire par le propos et c'est pas... D'ailleurs, en fait, c'est jamais ton étendard. Tu vois, quand on vient de te demander de décrire ton rap, t'as pas dit engagé. Et ça t'est même pas venu à l'esprit. Et il n'y avait pas de synonyme ou quoi que ce soit dans tes mots, tu vois. Donc c'est qu'en plus c'est un engagement, tu sais, humble et vertueux. Et du coup.
Non mais gros, t'es un boss. Merci beaucoup, mon gars. C'est merci.
Non, mais vraiment, voilà. Moi, je considère pas forcément que je fais du rap engagé, même si t'écoutes mes textes, tu vas très vite savoir ce que je pense et les valeurs que je défends. Mais voilà, c'est plus clair et plus limpide avec certains artistes, et Ephrasis en fait partie.
Moi, je vais citer mon sauce, parce que dans le morceau, derrière chaque bougie, il commence en mode crevard en costard, flûte de champagne, il parle de racheter des parts, j'ai la hargne, moi j'ai qu'une taille entamée, de la bonne volonté et un compte sans épargne. Bah frère, c'est engagé, c'est l'époque, c'est nous, c'est...
C'est vrai. Si tu prends cette phrase sortie de son contexte, c'est très engagé, pour le coup. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai.
Allez streamer, c'est très très fort. On est ensemble.
Merci beaucoup pour cet échange qu'on a eu et qui nous a plongé donc, dans votre univers rap à vous deux. Vous pouvez donc retrouver Ephrasis et LO sur les plateformes. N'hésitez pas à aller écouter ou bien aller les découvrir sur scène, ça vaut le coup. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était L'Écho des Rap, le podcast qui explore le rap de la scène à l'écoute.
L'Écho des Rap, L'Écho des Rap, L'Écho des Rap, L'Écho des Rap.